France Culture.
Bienvenue à toutes et à tous dans les Midi de Culture. À 13h, je recevrai Patrick Modiano et Christian Mazalaï. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec Sophie Catherine Gallet. Bonjour, alors quoi de neuf dans le monde culturel aujourd'hui?
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'exposition Rêverie de pierre, poésie et minéraux de Roger Caillois est présentée à l'École des Arts Joailliers à Paris en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle jusqu'au 29 mars prochain. Qui était Roger Caillois et en quoi son approche des pierres est-elle particulière? C'est notre dossier du Point Culture du jour. François Farge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et responsable scientifique des collections de gemmes et d'objets d'art. Vous êtes également commissaire de l'exposition Rêverie de pierre, poésies et minéraux de Roger Caillois. Alors, est-ce que c'est une pierre en particulier qui a donné à Roger Caillois l'impulsion pour débuter sa collection? Que sait-on des débuts de sa démarche finalement?
Alors effectivement, il a eu une approche très progressive des pierres, ça a été un peu compliqué parce que c'est quelqu'un de compliqué, Caillois, mais qui est aussi passionnant à cause de cela justement. Alors il s'est très longtemps intéressé aux pierres, mais il l'a pas vraiment réalisé. Il les regardait et il connaît tout un vocabulaire de minéralogie sans même se déclarer passionné de pierres, mais finalement c'est en 1952, en passant devant un magasin de minéraux rue du Bac, les auditeurs doivent connaître, c'est des rôles, hein, c'est une institution parisienne. Donc il a, au milieu des insectes, des choses qui l'intéressaient plus à cette époque-là, la biodiversité essentiellement, il a vu un minéral qui lui rappelait les ailes d'un papillon, le papillon morpho du Brésil, qui a des ailes aux couleurs basculantes, comme il dit, c'est-à-dire que suivant l'angle, on regarde le papillon, mais aussi cette pierre qui est une labradorite. On voit sa couleur changer magnifiquement d'un gris terne à un bleu électrique des plus intenses. Alors c'est ce phénomène qui l'a vraiment beaucoup intéressé et qui a vraiment fait démarrer sa passion pour les pierres.
Cette passion qu'il découvre pour les pierres se prolonge aussi en une expérience littéraire, en une écriture poétique. Il lit ce qu'il voit dans la pierre à une expérience sensible du monde. Comment décririez-vous ces textes poétiques et le lien entre ceux-ci et les pierres qu'il collectionne? Et comment vous avez mis ça en scène dans l'exposition?
Alors, en fait, Roger Caillois va pas d'abord se lancer dans la poétique autour des pierres. Il va d'abord écrire des essais. Il va comparer donc l'iridescence des papillons aux minéraux. Ça va être des essais un peu durs à lire, des essais de sociologie au sens très général du terme. Et effectivement, au fur et à mesure, il va tomber dans le joli piège de la poésie, qui est sa nature profonde. Mais tout comme les minéraux, il l'a pas réalisé dès le départ. Et effectivement, nous avons essayé de montrer dans l'exposition, notamment à la partie 1, comment le Roger Caillois, qui simplement achète une pierre par simple curiosité, va progressivement effectivement devenir le poète, parce qu'il va commencer à y voir des images dans les pierres. Alors il dit qu'il n'est pas le premier, il regarde les historiens qui l'ont précédé, la Chine, les lettrés chinois, Léonard de Vinci et plein d'autres, pour après finalement s'adonner à sa nature la plus profonde, j'oserais dire, c'est-à-dire vraiment la poésie et la poésie autour de toutes ces images que lui inspirent les pierres.
Alors Roger Caillois a dit que les pierres sont des hiéroglyphes sans images. Comment vous expliquez cette phrase? Est-ce qu'il voulait dire par là qu'elles sont porteuses d'une histoire qui pourrait sembler de prime abord indéchiffrable?
Oui, tout à fait. C'est justement cette beauté hypnotique qui le passionne, et notamment le passage auquel vous faites allusion parle plus particulièrement de l'écriture dans les pierres, c'est-à-dire à travers certains cristaux qui ont des formes un peu répétitives. Il a l'impression d'y voir des sortes de cunéiformes de la terre-mère, et justement donc des sortes de hiéroglyphes comme Champollion les a vus jeunes, mais sans pouvoir les déchiffrer. Et effectivement, Roger Caillois n'étant pas versé dans la science de la minéralogie, il les perçoit comme indéchiffrables, sans alphabet. Alors pour nous scientifiques, toutes ces cristallisations qui suggèrent des alphabets nous disent plein de choses d'un point de vue minéralogique, mais lui préfère garder le mystère autour de ses écritures, mais aussi de ses ratures, puisque c'est le repentir de l'écrivain.
Alors, à propos de mystère, grâce à cette exposition, enfin, en tout cas, à l'occasion de cette exposition, on découvre un texte inédit que vous avez retrouvé, qui s'appelle Pierre anagogique. Donc, ce titre est très mystérieux. Comment vous pourriez nous l'expliquer? Et comment il vient compléter aussi l'œuvre de Roger Caillois?
Oui, tout à fait. Alors, ce texte, c'est vraiment l'apothéose de l'œuvre littéraire de Roger Caillois. Il a terminé ce texte quelques jours avant de décéder brutalement à l'hôpital. Donc, il a insufflé dans ce texte vraiment ses dernières visions. Et ses dernières visions sont celles de l'anagogie, c'est-à-dire ces humains qui lèvent les yeux vers le ciel pour y voir les divinités. Alors, à l'origine, le concept est grec de l'Antiquité, donc c'est ces mortels qui regardent donc effectivement le Parnasse et le lieu des dieux. Dans ses notes, il nous raconte, et c'est cette chance d'avoir retrouvé ces notes qui nous permet de mieux nous guider. Il parle plutôt de Bernard de Clairvaux, donc le fondateur de l'ordre cistercien au Moyen Âge. Et sans tomber du tout dans une pensée théologique, parce qu'il était athée, il trouve à travers l'exégèse des anciens philosophes et théologiens, comme Bernard de Clairvaux, mais aussi les Chinois, comme Mifu et quelques autres, il y trouve justement, au crépuscule de sa vie, une inspiration nouvelle qui, alors que lui regardait ses pieds pour voir les pierres qui étaient tout autour, là il lève les yeux vers le ciel, sentant sa mort prochaine arriver, et il décrit dans ses pierres justement des macrocosmes, des univers différents où le ciel d'un seul coup prend une ampleur tout à fait importante, alors qu'avant il restait plus enfermé dans l'imaginaire de ces pierres.
Dans l'exposition que vous avez conçue, on peut y voir aussi des sculptures que Roger Caillois avait faites à partir de pierres, des sculptures que vous avez vous-même reconstituées. Alors, on apprend aussi que Caillois avait fréquenté le groupe des surréalistes. Est-ce que pour vous, ce geste de sculpteur prend racine dans le geste surréaliste? Il faut peut-être préciser aussi qu'il a apporté des modifications aux pierres qu'il a sculptées.
Oui, alors effectivement, c'est très compliqué. Caillois est l'homme des contradictions, c'est-à-dire c'est celui qui abhorrait la poésie finit par devenir lui-même poète. Lui qui a rejeté le surréalisme, justement à cause de la volonté d'André Breton de garder les mystères à l'intérieur des objets ou de créer des chimères. On se rappelle tous le cabinet surréaliste de 1937-38, je me rappelle plus la date. La fameuse expo chez Raton, la galerie Raton. Et Roger Caillois, justement, cherche à devenir, en plus d'un essayiste, en plus d'un poète, il essaye aussi d'être un artiste. Et il fait ces combinaisons de pierres en les collant les unes sur les autres, des choses absolument hérétiques pour un minéralogiste, en prenant des pierres qui n'ont absolument rien à voir entre elles, mais qui, selon Roger Caillois, leur donnent une valeur toute nouvelle, en tout cas la distinction d'œuvre d'art. Mmh. Et à l'époque, ça va être tout à fait reconnu, puisqu'il va faire une très belle exposition dans la galerie de Katia Granoff, qui avait un œil absolument admirable pour l'avant-garde. Mais malheureusement, il sera très mécompris de ses contemporains et la chose était beaucoup trop nouvelle. Et donc, il ne va plus les montrer, il va les garder dans son intérieur profond. Ces quelques photos des étagères de Roger Caillois dans son appartement à Paris qui m'ont permis de les reconstituer. Et ses héritiers les ont démontés. Donc effectivement, j'ai pu reconstituer sur la base des échantillons isolés et des photos d'archives de les reconstituer. Et c'est vrai que maintenant, on les voit d'un œil bien différent parce que effectivement, on a l'impression de voir les chimères du surréalisme, mais on voit surtout la pensée profonde de Roger Caillois qui, comme dit la chanson, j'aurais tant aimé voulu être un artiste.
Merci beaucoup, François Farge.
Merci beaucoup Sophie Catherine et on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles.
À demain Marie.
Il est 13h et vous êtes sur France Culture.